9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, heureux de vous retrouver. On va revenir sur l'événement de la semaine, l'avion détourné par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko pour s'emparer d'un opposant qui voyageait à bord. Dans ses mémoires, Jean-François Kahn raconte un acte de piraterie similaire qui avait également été une catastrophe sur le plan international. Mais c'était la France à l'époque qui s'en était rendue coupable. Il est mon premier invité. Je recevrai ensuite Stéphane Noël, le président du tribunal judiciaire de Paris, la plus grande juridiction de France. Selon un sondage, 81% des Français trouvent la justice laxiste. Lui fait partie des 19% qui restent. Il va nous expliquer pourquoi. Et l'on terminera l'émission avec la comédienne Marianne Denicourt. Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
Vous aurez 83 ans dans quelques jours et vous sortez le premier tome de vos mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes retrouvé au cœur de la plupart des événements qui ont façonné le monde actuel. Non seulement c'est passionnant à lire, mais c'est riche en enseignements. J'ai pensé à vous parce que je me suis dit, si Alexandre Loukachenko, le dictateur biélorusse, l'avait lu, il aurait su que l'acte de piraterie internationale qu'il s'apprêtait à commettre, détourner un avion pour mettre en état d'arrestation l'un de ses adversaires politiques, était stupide et totalement contre-productif. En effet, page 65, vous racontez un fâcheux précédent, c'était en 1956, et c'est la France qui a été la première à détourner un avion d'Air Maroc à l'époque pour arrêter 5 dirigeants du FLN qui se trouvaient à bord. Et ça a été une catastrophe pour nous.
Ça a été une catastrophe, mais sur le moment, l'ensemble de la presse, sauf l'Humanité, mais l'ensemble de la presse, y compris Le Monde, y compris Figaro, enfin, exultait. Parce que vous vous rendez compte, on avait une rébellion en Algérie, le FLN, hein, on était les rebelles. Et c'était pratiquement toute la direction du FLN, dont Ben Bella, toute la direction du FLN. Et ils avaient pris un avion pour aller du Maroc en Tunisie, pour aller à un congrès, etc. Et on intercepte l'avion, c'est un piratage international.
Avec hein. Des chasseurs, hein, comme l'a fait Lucas Chenko.
Un chasseur, exactement, le fait atterrir, et hop! On s'en empare, les membres. Alors là, tout le monde dit, ça y est, la direction du FLN est décapitée, un coup de maître, un coup formidable, la guerre d'Algérie est terminée. Voilà. Or, c'est pas vrai, c'est l'idée que quand vous avez une révolution, une révolte, tout dépend du chef. Vous arrêtez le chef, et la révolte s'en... vous imaginez, je sais pas, la preuve, Jean Moulin est mort. Il a été tué par les Allemands, on aurait pu penser à ça. La résistance a continué. Donc c'est absurde.
Et en plus, alors il n'y a pas que la presse. Hein. L'ensemble du personnel politique, à part Mendès France, un ministre, Alain Savary, qui démissionne. Vous
mais Mitterrand,
le racontez aussi.
Mitterrand
mais tous les autres ont applaudi.
Tout. Et vous imaginez, d'abord, en plus, moi j'étais tout jeune. Ça et d'autres choses. J'étais sidéré parce que je venais, comme dit Dalida, je venais d'avoir 18 ans, mais je ne la connaissais pas, hélas. Et je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Tous ces adultes exultent, alors que moi, qui suis un tout petit, là, qui n'a que 18 ans, même pas, je trouve ça idiot, bon, c'est vrai. Mais ça a été bien pire que ça, parce que non seulement, évidemment, ça n'a pas supprimé la rébellion, il y avait une raison de la rébellion, c'est pas parce qu'on arrêtait les chefs, mais ça a été pire que ça. C'est qu'en vérité, la rébellion allait très mal. C'est-à-dire qu'il y avait des divisions terribles. Il y avait d'abord ceux de l'extérieur, ceux-là, qu'on allait prendre, qui étaient au Caire,
hein, les fameux dirigeants du FLN.
Voilà, qui étaient au Caire, et il y avait ceux de l'intérieur. Et il y avait un bisbille terrible entre l'extérieur et l'extérieur, mais un bisbille qui allait vers le clash total. Et ceux de l'intérieur, un type qui s'appelle Aban Ramdan, avait fait un congrès, et les autres n'avaient pas pu venir, parce que c'était en Kabylie. Et dans ce congrès, ils avaient pris des décisions, et entre parenthèses, ça aurait changé l'histoire de l'Algérie. Parce que la laïcité, ils récusaient l'islamisme, la démocratie, vraiment, c'était extraordinaire. Et Ben Bella et les autres étaient très mécontents, on allait vers un clash. Et grâce à ça, ils ont refait l'unité. Tout à coup, ça y est, Ben Bella est devenu le chef, ils ont refait l'unité, ils se sont regroupés. Donc ça a été une catastrophe pour l'Algérie, pour nous, Terrible.
Mais aussi, sur le, vous le racontez, les conséquences internationales sont catastrophiques, exactement pour, comme pour Loukachenko.
Ah bah oui.
Le sultan du Maroc, Mohamed V, nous en voudra toujours. Il n'aura plus jamais confiance. On venait juste de donner l'indépendance au Maroc et à la Tunisie.
Et Bourguiba.
Et Bourguiba, exactement. Pareil. Non, il y aura carrément des émeutes anti-françaises au Maroc qui ont fait quand même plusieurs dizaines de morts à cause de cet acte de piraterie.
Absolument.
Et puis les Américains aussi étaient furieux. Au fond, les événements d'Algérie se sont retrouvés soudain sur la scène internationale.
Ah oui, on nous a montré du doigt partout, ça a internationalisé. Et je vous dis, ils n'avaient pas de chef, en fait. Et là, tout à coup, il y a un chef, Ben Bella, en prison, voilà. Et en plus, c'est un chef formidable, parce que, si j'ose dire être vulgaire, c'est un chef qui ne pouvait pas chier, parce qu'il est en prison.
Oui, si l'on peut dire. Mais au fond, il s'est passé exactement pareil que pour Roman Protasevich, que personne ne connaissait, et qui est devenu, du jour au lendemain,
un
héros.
Un leader.
Et là, ça a été pareil. En voyant les cinq dirigeants du FLN menottés, que la France a exhibé, tout à coup, ça leur a donné un prestige considérable.
Absolument. Et alors, qui c'est qui entre parenthèses, parce que c'est en plus, ça annonce des événements terribles, parce que c'est les militaires qui ont pris cette initiative, tout seuls.
Oui,
tout seul.
Couvert par le secrétaire d'État de la Défense.
Vous rendez compte, c'est quand même un événement incroyable de détourner un avion, etc. Ils préviennent même pas le pouvoir civil, rien.
Si, le secrétaire d'État de la Défense était, les a couverts, le Max Lejeune.
Après, et qui les a couverts? Un gouvernement socialiste. C'est-à-dire le ministre de la Défense, Max Lejeune, qui est socialiste, Guy Mollet, qui est socialiste. Donc c'est un gouvernement socialiste qui couvre une armée, des militaires qui ont pris l'initiative de faire un acte de piratage. C'est quand même incroyable.
Et
vous imaginez De Gaulle dans cette situation?
Oui,
ils y viraient tous.
Loukachenko, en tout cas, aurait dû le savoir. Un, ça ne sert à rien. L'Algérie sera quand même indépendante 5 ans et demi plus tard. Et en plus, 2 des 5 qu'on a arrêtés ce jour-là sont devenus présidents de la République de l'Algérie. Le premier, c'est Ben Bella. L'autre, c'est Mohamed Boudiaf.
Absolument.
Donc, parmi les 5, il y avait 2 futurs présidents de la République. Certainement parce qu'on les a arrêtés ce jour-là.
De toute façon, comme vous le savez, la prison, c'est très, très, très bon comme marchepied pour devenir président de la République.
On fait une pause, on prend sa canne. Il y a d'autres exemples dont aurait dû s'inspirer Loukachenko.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes avec Jean-François Kahn qui publie le premier tome de ses Mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire. On revient sur le...
Est-ce que ça vous a fait rire?
Oui, le livre, beaucoup, oui.
Ah bon.
Je vous rassure, mais pas dans le mauvais sens du terme. On revient sur ce détournement d'avion commis par le régime biélorusse. Il y a un autre événement qui est intéressant, c'est en 1969, c'est l'avion Rome Tel Aviv qui est détourné pour la première fois par une femme, d'ailleurs une palestinienne, Leila Khaled, membre du FPLP, un avion qui est détourné vers Damas. Et les Palestiniens donc, croient que l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis voyage à bord. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, c'est Yitzhak Rabin, futur Premier ministre de l'État d'Israël, mais ça, ils ne le savent pas. Ils veulent le traduire devant un tribunal à Damas, là où ils vont détourner l'avion, un tribunal arabe pour le punir de ses crimes, des crimes dont il l'accuse envers les Palestiniens. Alors, il n'est pas à bord, donc en fait, ce détournement ne va servir à rien, ils vont juste à Damas. Mais au fond, à l'époque, on s'en souvient mal, mais les Palestiniens étaient plutôt populaires, la cause palestinienne était plutôt populaire, et c'est avec des actes de détournement tournement d'avion comme celui-là, qui vont perdre tout leur crédit sur la scène internationale.
Oui, parce que c'était des combattants, enfin, héroïques, c'était des opprimés, voilà. C'était des opprimés, les Palestiniens, ils ont le droit à une patrie, ils étaient dans l'affrontement, très bien. Et puis tout à coup, ils sont réduits, devant toutes les télévisions, les radios du monde, enfin, ils sont là, à une profession qui va devenir très célèbre, mais pas qu'une profession qui n'est pas très recommandable, c'est-à-dire kidnappeur. Et tout à coup, on identifie le Palestinien au kidnappeur. Et c'est vrai, ils sont très fiers de cette opération, mais ça va se retourner contre eux.
Exactement. Il y a un autre exemple que je voulais vous soumettre, alors qui n'est pas dans ce tome de vos mémoires, mais qui sera peut-être dans le prochain, c'est l'atterrissage forcé en 2013 de l'avion du président bolivien Evo Morales, que les États-Unis à ce moment-là soupçonnent de transporter Edward Snowden. Et pour l'obliger à se poser à Vienne et pouvoir vérifier si Snowden est à bord, plusieurs pays européens, dont la France, interdisent à l'avion du président bolivien le survol de leur espace aérien. Certaines personnes, aujourd'hui, font la comparaison. Alors, il se trouve que Snowden n'était pas à bord, mais là, en l'occurrence, on voulait fouiller l'avion. On voulait vérifier.
C'est pas tout à fait comparable, quand même. Simplement, la France, dans cette affaire, n'a pas été tout à fait à son honneur. elle s'est pliée à un ordre qu'elle a dépassé. Mais surtout, ça a servi la popularité de Morales.
Et Snowden.
Et Snowden.
La police autrichienne est quand même montée à bord. Hein. Snowden n'y était pas. Mais c'est vrai qu'il y a gagné Snowden en prestige et en popularité dans le monde entier. À ce moment-là, le président bolivien a parlé d'actes d'agression envers toute l'Amérique latine. La Russie, qui avait donné l'asile politique à Snowden, s'est frotté les mains.
Mais enfin, il était déjà commencé comment à être célèbre déjà, à partir à ce moment-là.
Oui, c'est vrai. Mais ça a plutôt fait du bien à Snowden qu'aux États-Unis, à la France.
On pourrait prendre que ça... On pourrait faire l'histoire comme ça. Mandela, si on ne le met pas en prison, il n'y a pas de Mandela. On arrête Mandela, on le met en prison, ça devient...
Oui, voilà. Enfin là, il est resté 27 ans quand même, hein, Mandela.
D'accord, mais il croyait qu'en le gardant 27 ans, on liquidait le problème Mandela. Pas dire, on a au contraire exalté le problème Mandela. On pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça.
Il y a un autre événement, enfin il y en a tellement que vous racontez dans ce livre, mais il y en a un autre qui peut nous ramener aujourd'hui, c'est l'expédition de Suez en 1956 contre Nasser. Vous insistez beaucoup pour dire à quel point Nasser, qui avait perdu la guerre, si guerre il y a eu à ce moment-là, a proclamé partout qu'il l'avait gagné. Et au fond, c'est un peu comme le Hamas aujourd'hui.
Mais c'est exactement pareil. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Nasser décide de nationaliser le canal de Suez. Mais enfin, le canal de Suez, c'est un canal qui traverse l'Égypte. Ça traverse l'Égypte. Si vous imaginez un canal qui traverse la France et qui appartient à l'Allemagne. Ça appartient à une société capitaliste qui prend tout le pognon et on donne que des clopinettes aux Égyptiens. Qui pouvait penser un seul moment qu'un dirigeant égyptien, à un moment ou l'autre, ne nationalerait pas le canal de Suez? C'est absolument évident. Et tout à coup, alors, entre parenthèses, on est payé en dessous de table par la compagnie du canal, hein, pour bon... Et là aussi, c'est des socialistes au pouvoir.
Les Français et les Anglais.
Vous imaginez, des socialistes au pouvoir qui vont décider d'intervenir militairement pour défendre les intérêts d'une société ultra-capitaliste contre un mec qui a nationalisé son canal. On rêve. Donc, on décide d'intervenir. Et entre parenthèses, on convainc Israël. Vous savez comment on fait pour... Parce que quand même, intérieur, c'est un peu gros. Hein. Vous savez ce qu'on fait? On convainc Israël d'intervenir et on dit... Comme ça, on va dire qu'il y a un danger de guerre entre Israël et l'Égypte, donc on va intervenir pour les séparer. Absolument incroyable. Donc on intervient, nos parachutistes, général Massu, on intervient. Tellement on gagne. On rentre comme dans du beurre, il n'y a aucun problème. On arrive à Suez, Port Saïd, aucun problème. Très bien. Mais scandale international. Le monde entier, les pays du tiers-monde, les travaillistes anglais, les pays scandinaves, enfin, tout le monde.
Et surtout les Américains et les Russes.
Et les Russes et les Américains, à ultimatum, vous devez vous retirer. Bon, il fallait s'en douter, très bien. Donc on doit se retirer, forcément, ils couvrent cessez-le-feu, on doit se retirer. Et Nasser dit, on a gagné, la preuve, ils se retirent. Donc on a gagné. Et dans tout le monde arabe, ils sont convaincus que c'est une énorme victoire égyptienne, un triomphe égyptien. Et du coup... déferlement du nationalisme arabe sur tout le monde arabe. Ça va changer absolument la face du monde pendant 10 ans. Donc voilà. Eh ben, on l'a vécu ça un peu à une autre échelle avec Hamas. Hamas, bien sûr qu'ils ont été bombardés, ils ont perdu. Ils ne peuvent pas gagner contre les bombardements égyptiens. Ils ont été écrabouillés par les bombes. Comme il y a un cessez-le-feu, ben forcément, il y aurait forcément un cessez-le-feu, à moins de raser la ville. Ils ont décidé qu'ils ont gagné. Ils disent partout, on a gagné. Les Palestiniens, ils en ont gagné. Comme en plus, le chef de l'autorité palestinienne, le dénommé Mahmoud Abbas, est vraiment nul, c'est une sorte de pétain palestinien. Donc, et tout à coup, Hamas, les triomphateurs, etc. Et ça va avoir des répercussions terribles, parce qu'il y avait des aspects positifs dans le nasserisme, moi je le pense, il n'y a pas beaucoup d'aspects positifs dans Hamas, hein. Vraiment une dictature islamiste et tout, mais ça va renforcer le courant islamiste dans tout le Proche-Orient. Voilà comment, en effet, on arrive à provoquer des catastrophes avec des initiatives absurdes qu'un enfant de 16 ans peut comprendre. On peut comprendre que c'est absurde.
Merci Jean-François Kahn. Mémoire d'outre-vie, le premier tome vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans un instant avec le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Le Beauvau de la sécurité a repris jeudi entre le ministre de la Justice et les syndicats policiers, 8 jours après la manifestation devant l'Assemblée nationale à laquelle avait participé le ministre de l'Intérieur et nombre de dirigeants politiques comme Xavier Bertrand, Olivier Faure, Fabien Roussel, Jordan Bardella, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez ou Nicolas Dupont-Aignan. Depuis, un sondage est sorti selon lequel 81% des Français trouveraient la justice trop laxiste. Stéphane Noël, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes président du tribunal judiciaire de Paris, c'est la plus grande juridiction de France. Que vous inspire le résultat de ce sondage ?
Oh, écoutez, je ne partagerai pas les conclusions de ce sondage, ça ne vous étonnera pas, mais ce que je tiens d'abord à dire, c'est que la justice n'est pas laxiste, la justice, elle est responsable. La justice, elle n'est pas hors sol. La justice, elle est parfaitement ancrée dans ses territoires de compétence. Elle est parfaitement aussi attentive à la réaction de la population, aux événements qui se passent autour de nous. Les événements dramatiques que nous vivons depuis plusieurs semaines et qui créent des et qui suscitent et provoquent des réactions d'indignation, d'incompréhension qui sont légitimes, procèdent aussi par amalgame. Et ça ne sert à rien d'opposer la police et la justice. La justice, elle est là pour appliquer la loi. Ce ne sont pas les juges qui votent la loi. La justice, elle est là aussi pour appliquer des grands principes, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, ceux qui respectent les droits de la personne, ceux qui respectent aussi les valeurs des démocraties. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Ce que les Français ne comprennent pas aujourd'hui, et il y a en quelque sorte une nécessité à concilier, c'est-à-dire leur aspiration à plus de sécurité, de protection, quelque part pour certains toujours plus d'emprisonnement, toujours plus d'enfermement, avec ce qu'est justement un état de droit qui est là pour les protéger. L'état de droit, c'est protéger les Français contre la loi des plus forts, la loi des plus puissants. L'état de droit est là aussi pour garantir l'équilibre de la société, sa cohésion. Et un état de droit fonctionne lorsqu'il y a des juridictions indépendantes et impartiales. Et je tiens aussi, à travers vous, dire à vos auditeurs combien les juges dans notre pays sont engagés, responsables. Pas simplement les juges que l'on connaît à travers la couverture médiatique, les juges d'instruction ou les juges correctionnels, mais l'ensemble des juges. Les juges aux affaires familiales, les juges des tutelles, ceux qu'on ne parle jamais, qui font un travail considérable au quotidien, les juges civils. Ils sont là par l'ensemble de leur mission au service de notre population pour les protéger. Dire ce qu'est le droit pour rétablir la cohésion nationale et rétablir nos concitoyens qui demandent justice pour faire valoir leurs droits.
Stéphane Noël, généralement quand on dit que la justice est trop laxiste, et on l'a beaucoup dit et répété au cours de la semaine, c'est pour dire que les condamnations ne seraient pas assez sévères. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ?
Alors, sur la sévérité, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les juges, dont je l'ai déjà dit, doivent appliquer les lois et doivent aussi individualiser les sanctions. C'est un principe fondamental dans une démocratie, parce que on peut très bien dire qu'il faudrait qu'il y ait des distributeurs automatiques de peines.
On l'a beaucoup
dit.
Des
peines toujours plus lourdes, des peines automatiques, des peines planchées. Nous les avons déjà eues, d'ailleurs, pendant un certain temps. Or, ces peines planchées, le Conseil constitutionnel a dit « Attention, on ne peut pas être dans un régime de distribution automatique des peines. Il faut à chaque fois prendre en compte la situation individuelle de la personne qui est poursuivie. » Ce qui veut donc dire que les peines sont fixées soit par des magistrats professionnels et parfois aussi, je dirais, nos concitoyens lorsqu'ils participent aux assises, tant que les assises fonctionnent telles que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on prend en compte les caractéristiques des faits, la personnalité de la personne poursuivie, ses conditions de réinsertion ou de réinsertion dans la société. Donc ça, c'est essentiel et c'est fondamental aussi.
On parle aussi du manque d'effectivité des peines. Les peines ne seraient pas appliquées.
Je crois qu'à travers cette notion-là, on touche certainement du doigt ce qui pose problème entre les Français et la justice. La première des difficultés, c'est la lenteur de la justice, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour être jugé, tant en matière civile qu'en matière pénale. Dans certains contentieux ou selon certaines procédures, on peut être jugé plus rapidement, c'est les comparutions immédiates au pénal, c'est les référés en matière civile, mais globalement, ce dont souffre la justice, c'est sa lenteur. Ce n'est pas nouveau. Les professionnels du droit, depuis des années, depuis des décennies, constatent que la justice est lente. Ensuite, une fois que la justice intervient, c'est l'effectivité des sanctions prononcées ou des décisions prononcées. Et là, les Français, certainement, perçoivent bien qu'il y a de nombreuses peines qui ne sont pas exécutées. Là aussi, cela fait des années, voire des décennies, qu'on sait qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de peines, notamment au pénal, qui ne sont pas exécutées. Et donc, par conséquent, la confiance que l'on porte dans l'institution judiciaire pour renouer le lien social, lorsque sa parole, qui est en quelque sorte aussi la parole de l'État, de la cohérence de l'État, de l'efficacité de l'État, n'est pas mise en œuvre, alors on crée une très grande fragilité. Et j'ai toujours soutenu que l'inefficacité de la justice était aussi à terme la traduction de l'inefficacité de l'État. Et je pense que nos concitoyens, quand ils critiquent la justice en disant qu'ils sont laxistes, c'est peut-être davantage cela qu'ils mettent en perspective. Moi, je suis certainement très, très attaché et convaincu que les Français sont très attachés à la liberté. À la liberté individuelle, à la liberté de mouvement. D'ailleurs, regardez à travers ce que nous vivons avec la période de confinement. Les Français n'en pouvaient plus. Les Français ont hâte de retrouver leur rythme de vie normal, de pouvoir sortir librement. Or, lorsqu'on encadre trop une activité humaine, quelle qu'elle soit, ce besoin de liberté est essentiel. Par contre, ce que les Français ont du mal à comprendre, ils le critiquent, c'est de dire, mais peut-être que l'état de droit, peut-être que la loi est une entrave au bon fonctionnement de l'État. Or, c'est là qu'il faut faire de la pédagogie et, à mon avis, avoir une action volontaire, c'est qu'il faut rendre l'État plus efficace et il faut rendre la justice plus efficace. Là aussi, je ne suis pas le seul à le dire aujourd'hui à votre micro, Frédéric Taddeï, ça fait des années, des décennies que les magistrats, les avocats, l'ensemble des observateurs attentifs de l'institution judiciaire constatent que, en quelque sorte, cette institution nécessaire dans une démocratie est entravée. Soit elle a des boulets à ses pieds, soit elle a des moyens insuffisants. Je dirais qu'un chiffre pour montrer également le décalage qu'il peut y avoir avec d'autres démocraties autour de nous. La France consacre globalement chaque année 70 euros par habitant pour l'activité de sa justice. L'Allemagne, 130, près du double. Je ne dirais pas que tout est dit, mais en tout cas, c'est là en tout cas une des raisons aussi certainement de notre fragilité.
Pourquoi les peines ne sont pas effectuées? Tant de milliers de peines non effectuées à cause de la surpopulation carcérale?
Vous l'avez dit. Une des caractéristiques de notre pays, c'est que nous avons un parc pénitentiaire qui est ce qu'il est. Il est en partie vétuste et nous avons consacré beaucoup de moyens pour le rénover, c'était nécessaire. Et nous avons un parc pénitentiaire qui est saturé. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant lorsqu'on voit l'évolution des législations depuis plusieurs années, et quel que soit, je dirais, les gouvernements qui ont porté ces réformes, c'est qu'on s'est rendu compte que très vite, on pouvait dire, bien sûr, il faut être sévère et sanctionner plus lourdement, mais en même temps, on demandait aux juges, avec beaucoup d'insistance, pour qu'il y ait le moins d'incarcération possible ou qu'il y ait de l'aménagement pénal immédiat. Je donne cet exemple qui est très net, parce que c'est aussi les injonctions contradictoires que l'on adresse à la justice. À la fois, on peut lui demander, soyez plus sévère, toujours plus sévère, peut-être de même certains des peines d'automatique et plus d'enfermement. Et ceux qui sont alors après en responsabilité vont dire, oulala, attention, certes, mais vous devez aussi surtout veiller à ne pas trop incarcérer parce que nous n'y arrivons pas. Alors, la réponse pénale, elle ne doit pas passer aussi que par la prison. Il y a tout un panel qu'il faut aussi développer.
Stéphane Noël, on fait une pause et j'ai encore beaucoup de questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
On a entendu beaucoup de policiers ces dernières semaines. Ce matin, sur Europe 1, on écoute un magistrat, Stéphane Noël, le président du tribunal judiciaire de Paris. Dans les choses qu'on reproche à la justice, Stéphane Noël, c'est de ne pas être suffisamment attentif au sort des victimes. On a même entendu quelqu'un dire « le ministre de la Justice devrait être le ministre des victimes ».
Là aussi, c'est à tort que l'on porte ce regard sur le fonctionnement de la justice. Une victime, aujourd'hui, elle fait l'objet d'une attention toute particulière des services d'enquête. Les victimes, aujourd'hui, peuvent bénéficier à proximité de tout le réseau de l'accès au droit qui existe en lien avec les communes, les départements, pour apporter conseils, écoute, orientation. Les victimes, aujourd'hui, peuvent bénéficier auprès de tout le réseau des avocats, d'avocats spécialisés pour être les porte-parole des droits des victimes, pour les accompagner durant tout le long des procédures. Les victimes peuvent trouver aujourd'hui dans chaque tribunal un bureau d'aide aux victimes qui sera là aussi pour les aider et les accompagner. Les victimes peuvent bénéficier aussi de l'aide juridictionnelle. Je tiens aussi à témoigner que les juges, tous les juges, par rapport à leur déontologie, par rapport à leur engagement professionnel, apportent une attention toute particulière aux droits des victimes. Et dans les procédures judiciaires, c'est-à-dire celles qui sont auprès de juges, devant les tribunaux correctionnels, les cours d'assises, les victimes peuvent faire valoir leurs droits et elles sont entendues. J'ajoute, y compris que, on le voit, je crois que là aussi, l'opinion publique doit être attentive aux procès importants qui font une couverture médiatique quotidienne. Dans de nombreux procès, les victimes s'expriment, les avocats des victimes s'expriment, leurs droits sont défendus, leurs droits sont reconnus. Là, ce qu'il faut en revanche préciser, c'est que ce ne sont pas les victimes qui rendent la justice. De même que ce n'est pas la police qui rend la justice. Un état de droit, j'y reviens, un état de droit fonctionne lorsqu'il fonctionne à travers l'intervention de juridictions indépendantes et impartiales. Des juridictions qui sont composées d'hommes et de femmes formés pour rendre la justice, avec les exigences posées par la loi, et j'ajoute leur déontologie, c'est-à-dire le respect de droits de toutes les parties, y compris des victimes. Mais ce ne sont pas les victimes qui rendent la justice.
Le cas de Sarah Halimi a beaucoup fait parler. Le fait que son assassin échappe au procès a choqué une partie de la population.
C'est compréhensible que par rapport à un tel drame, un fait aussi dramatique, il y ait de l'émotion, il y ait de l'incompréhension. Ce que l'on n'a peut-être pas suffisamment dit, alors que beaucoup ont pu dire après la décision de la Cour de cassation qu'il fallait un procès, c'est qu'il y a eu une audience. En novembre 2019, devant la Chambre de l'instruction, il a été procédé au réexamen du dossier qui avait été travaillé par des juges d'instruction. Cette audience, tenez-vous bien, a duré toute une journée, de 9h à 18h. À ce procès, à cette audience, plus précisément, à cette audience, nous avions toutes les parties civiles qui étaient présentes. 8 avocats de parties civiles étaient présentes. La personne contre laquelle il y avait des choses à lui reprocher, était présente dans le box. Ce dossier, on le sait, il est difficile parce qu'il a fallu examiner au moment des faits l'état psychique, neuropsychique de la personne poursuivie. À cette audience, alors qu'il y a eu 7 experts qui se sont penchés sur ce dossier, je crois que 4 experts étaient présents. Au cours de cette journée devant la Cour d'appel de Paris, il y a eu des questions qui ont été posées. Les avocats des parties civiles, non seulement ils ont bien sûr eu accès au dossier, mais ils ont pu interroger non seulement la personne qui était poursuivie, mais également les experts. Et les juges ont veillé à ce que chacun s'exprime, à que chacun pose des questions, à ce que le principe essentiel dans le fonctionnement de la justice, qui est le principe de la contradiction où chacun se parle et chacun s'écoute, puisse s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La chambre d'instruction a d'abord préciser les faits et qui étaient reprochés à l'intéressé, en disant qu'il y avait des charges suffisantes contre l'intéressé, en qualifiant les faits qui étaient reprochés. Mais elle a tiré aussi les conséquences du travail des experts psychiatres pour dire que la personne avait une abolition de son discernement. C'est un principe fondamental qui est posé dans la loi, qui veut dire tout simplement qu'on ne juge pas les fous. Voilà ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire à la cour d'une audience. La Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a dit? La Cour de cassation, elle aurait pu dire, je dirais à ce moment-là, pour épouser non pas la réaction générale par rapport à ce fait dramatique, que la Chambre de l'instruction s'était trompée. Non, elle a dit, je n'ai pas à rejuger l'affaire parce que la Cour de cassation ne rejuge pas les affaires. Elle a regardé si les juges de la Cour d'appel avaient attentivement, rigoureusement appliqué non seulement la loi, mais avaient bien interprété ce qu'il y avait dans le dossier pour qualifier les faits et se prononcer sur la responsabilité pénale ou non de la personne poursuivie. C'est-à-dire que c'est avec rigueur, et je tiens aussi à le dire, avec courage que l'on prend ce type de décision. C'est difficile aussi de juger, je crois qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas facile de rendre des décisions, mais ce sont les obligations déontologiques aussi des juges d'appliquer la loi strictement. Or, en l'espèce, la loi ne souffre pas d'interprétation. C'est une interprétation stricte que nous devons apporter en matière de loi pénale.
Dernière question, Stéphane Noël, mais il nous reste très peu de temps. Les médias ont toujours fait pression sur la justice, notamment dans les grandes affaires criminelles. Est-ce que les réseaux sociaux, ça a changé votre métier, à vous, de juge?
Disons que les réseaux sociaux, comme je dirais les lignes d'information, les chaînes d'information, elles participent, je dirais, un peu au tumulte des passions. Au vacarme des passions parfois. Et alors que nous devons, nous, juges, prendre toujours de la distance, du recul et de l'appréciation, c'est une garantie aussi pour nos concitoyens.
Merci Stéphane Noël d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve juste après une pause avec une comédienne, c'est Marianne Denicourt.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Marianne Denicourt.
Bonjour.
On vous a vu dans les films de Jacques Rivette, de Claude Lelouch, de Thomas Lilti, Hippocrate et médecin de campagne. Et les 4, 5 et 6 juin prochains, à l'occasion de son festival annuel La Bibliothèque Parlante, la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, vous invite avec d'autres comédiens à l'occasion de l'exposition consacrée à Henri Cartier-Bresson, Le Grand Jeu, à lire des textes qui éclairent le parcours de ce grand photographe. C'est vrai que c'est un monument, hein, Henri Cartier-Bresson. Il a pris des photos pendant 80 ans. Vous êtes sensible à son œuvre ?
Oui. Oui, oui, beaucoup. Et d'ailleurs, hier, j'ai regardé à nouveau des photos. Je n'ai pas encore vu l'exposition à la BNF. Et c'est absolument somptueux parce que c'est incroyablement composé, parce qu'il aimait beaucoup la peinture. Et en même temps, c'est très instinctif. On a l'impression qu'il a surgi. Enfin, on ne sait pas comment il a réussi à capter des moments pareils.
Oui, on parle toujours d'instant décisif en ce qui le concerne.
Ah, bah voilà, c'est ça. Et on se dit comment il a fait.
Oui, c'est ça. C'est une question qu'on a cessé de se poser pendant toute sa vie. Il est mort récemment, en 2004. Hein. On aurait pu le connaître. Vous ne l'avez pas connu, vous ?
Je l'ai croisé.
Ah, déjà pas mal.
Oui. Quand j'étais adolescente, je devais avoir 14-15 ans. Et mon père travaillait parfois avec Robert Delpierre, parce qu'il écrivait des textes sur des photographes. Et là, c'était les vacances. On était dans les Cévennes et on est allé voir dans le Luberon. On a été passer l'après-midi avec Delpierre et Cartier-Bresson, qui était avec sa femme Martine Franck.
Qui était photographe elle aussi, d'ailleurs.
Oui, qui était photographe elle aussi. Et bon, je savais que c'était un grand photographe. Je connaissais un peu ses photos. Et ils ont passé une grande partie de l'après-midi à photographier leur petite fille dans la piscine. Mais c'était dingue, parce qu'il y avait la petite dans la piscine qui jouait. Et j'étais fascinée. Je me suis mise dans un coin, je les ai regardés faire. Et en fait, ils ne prenaient pas, comme d'autres familles, une ou deux photos. Ils en ont pris 200.
Et c'était pas avec un appareil photo numérique en couleur en plus, hein, j'imagine.
Et ils étaient tous les deux à photographier leur petite fille. Je m'en souviens très bien, c'est marrant.
Alors, à l'occasion de cette exposition, vous n'allez pas lire des textes de lui, hein, ni sur lui, mais des textes qui concernent les artistes qu'il aimait. Or, il était fou de Proust, et vous avez vous-même adapté pour le théâtre Monsieur Proust, les souvenirs de sa gouvernante, Céleste Albaré, qui l'a accompagné pendant toutes les dernières années de sa vie, nuit et jour. Hein.
Voilà. Elle l'a accompagné. D'abord, j'ai fait cette adaptation dans l'objectif d'un spectacle. Bon, là, on est un peu contrarié, mais ce sera probablement bientôt. Et avec Yvan Morane. Et Céleste, elle a accompagné Proust les dernières années de sa vie, les 8-10 dernières années de sa vie, quand il écrivait La Recherche. En fait, il était dans son lit, il bougeait quasiment plus, il sortait très peu. Elle était une toute jeune femme qui rentrait à son service parce que c'était la guerre et qu'il n'y avait plus d'hommes, les hommes étaient sur le front. Et il y a eu une entente magnifique entre deux. Alors qu'elle sortait de sa campagne, elle connaissait rien. Et elle avait une espèce de bon sens, d'intelligence, de vivacité, de franchise qui a beaucoup plu à Proust. Ils se sont entendus comme larrons en foire. Il lui racontait tout. Il se marrait énormément, il se moquait beaucoup. Il faisait des commentaires sur tous les gens qui sont dans La Recherche, quoi. Et c'est une relation merveilleuse, magnifique.
Et elle nous a quittés en 1984, hein, elle avait 93 ans, Céleste. Et c'est elle, au fond, c'est grâce à elle qu'on connaît toutes les manies de Proust. C'est elle qui les a racontées, en fait.
Mais bien sûr, c'est elle qui l'a le mieux connue, à part sa mère, son frère. C'est vraiment la personne qui a le mieux connue. Elle a vécu avec lui nuit et jour. Et ce qui est joli dans cette relation, c'est que ça abolit complètement les rapports de classe. Parce que, ben voilà, ils étaient très proches et très liés. Donc, on connaît toutes ces manies. Et elle pensait qu'il se lançait la balle sur elle, comme elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, en lui racontant et en voyant ses réactions, il était déjà en train d'écrire. Il lui a même écrit un très joli poème. Il parle d'elle dans La Recherche.
Oui, il parle d'elle une fois. Effectivement, elle en est très, très, très fière, oui. D'ailleurs. Alors, vous avez vécu, là, depuis un an et demi, ce que c'est que d'être actrice de cinéma quand il y a une pandémie. Je crois savoir que pendant le tout premier confinement, le plus strict au printemps de l'année dernière, vous avez tourné un film dans Paris, Désert, réalisé par Arnaud Viard. Ça s'intitule « Je n'avais pas vu les choses comme ça », un titre qui s'y prête parfaitement.
Qui s'y prête parfaitement.
Et ça fait quoi de tourner un film en douce?
Ça, c'était chouette. C'était très chouette. On ne savait pas du tout ce que ça allait venir, parce qu'on tournait deux jours par là, on arrêtait, on recommençait. D'ailleurs, on a terminé le week-end du 15 août, parce que c'était assez désert et il manquait quand même des choses. Et c'était beau, en fait. Paris désert, c'était beau, même si cette pandémie et ce confinement étaient assez effrayants, mais il y avait un truc absolument magique. Donc, on a tourné en noir et blanc, on était très peu, toute petite équipe, trois acteurs.
Pour ne pas se faire remarquer.
Pour absolument pas se faire remarquer. Et c'est un très bon souvenir.
Mais les caméras étaient... Enfin, la caméra était où? Parce qu'une caméra, ça se voit quand même.
Ouais, ça se voit. Bon, d'abord, maintenant, les caméras sont petites. Donc, ou bien elles étaient un peu planquées dans un coin, ou bien pas planquées du tout, mais en fait, personne ne nous a rien demandé. Ou parfois, dans la fenêtre d'un immeuble pour faire des plans sur une place ou dans des rues.
Alors, vous avez joué également, Marianne Denicourt, dans les quatre derniers films de Claude Lelouch. Et le dernier, c'est « L'amour, c'est mieux que la vie ». C'est le 50e film de Claude Lelouch. Il a dit que ce serait le dernier. Est-ce que vous y croyez?
Je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer Claude Lelouch s'arrêter de tourner. Mais s'il le dit, je pense qu'il était sincère au moment où il l'a dit, c'est certain. Puis moi, je ne sais pas, j'en sais rien, mais j'ai des doutes.
Alors, il avait dit au même moment que le film allait se tourner en 15 jours, pendant une croisière. Est-ce que vous avez pu la faire, cette croisière? Parce que c'était... Depuis, c'est passé quelques trucs.
Oui, en plus, le film est en plusieurs parties, et je n'étais pas dans cette partie de la croisière, mais en fait, cette croisière, au moment d'embarquer, la veille, ils se sont rendus compte en testant toute l'équipe qu'il y avait une personne qui était positive au Covid. Et donc, interdiction d'embarquer. La croisière est partie sans l'équipe. Donc, comme Lelouch sait faire avec un instinct fabuleux et une espèce d'appétit de vivre, il s'est immédiatement adapté, il a changé des choses dans son scénario et il a tourné quand même, mais ailleurs.
Alors les problèmes liés au Covid avaient frappé déjà son film précédent, La vertu des impondérables. Il n'a pas pu sortir en salle à cause du Covid. On l'a vu seulement sur Canal+. Et ce film-là, alors il m'intéresse beaucoup parce qu'il a été tourné avec un iPhone. Je crois que c'était la première fois en France. Alors quelle différence ça fait pour les acteurs d'être dans un film qu'on tourne avec un téléphone portable? Parce qu'il n'y a rien de plus léger qu'un téléphone portable.
Ah oui, c'est vrai. Mais de toute façon, Lelouch, il fait toujours attention. Il fait toujours primer les acteurs, le jeu, leur liberté. Par rapport à la technique. Là, c'était pour lui idéal de tourner avec des iPhones. Il y en avait deux, parce qu'il y avait lui qui filmait, plus son chef-op. Ben, on ne savait pas, c'est pareil qu'Arnaud Viard, finalement. Même si les situations étaient très différentes, c'est-à-dire que parfois, on ne savait pas vraiment où était la caméra, l'iPhone. On l'oubliait totalement. On était dans le feu de l'action, dans les impros, etc. Ce qu'il y a de bien avec Lelouch, c'est qu'en fait, il n'y a aucun snobisme. Ce qui lui est parfois reproché, mais dans un univers qui est assez, quand même, où il y a des gens qui ont la carte, d'autres qui ne l'ont pas, même si
oui,
on sait
lui
que...
Lui, il ne l'a jamais eu.
Oui,
donc.
Mais parfois, après, il a eu des énormes succès aussi, mais il n'a aucun snobisme. Il est comme un enfant, il a un enthousiasme et une curiosité des gens. Il est curieux, Lelouch. C'est pour ça qu'il va vers l'iPhone, et c'est pour ça qu'il va vers différents acteurs. Un acteur l'intéresse, une actrice l'intéresse, et bien il l'invite à faire partie de son film.
Indépendamment, effectivement, du succès ou de l'image qu'elle peut avoir.
Absolument.
Y compris des chanteurs, des...
Des chanteurs, des humoristes, des acteurs, des actrices de tous horizons. Donc ça, c'est quand même très sympathique, quoi.
Et il est pareil avec les caméras, donc l'iPhone en fait partie.
Absolument.
En attendant, on pourra donc vous entendre vendredi 4 juin à 16h à la BNF, donc dans Monsieur Proust, votre adaptation des souvenirs de Céleste, sa gouvernante, dans le cadre de l'exposition consacrée à Henri Cartier-Bresson, Le Grand Jeu. Merci Marianne Denicourt.
Merci beaucoup. Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Lionel Gougelot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est votre programme, Lionel?
Bonjour Frédéric. Eh bien, nous reviendrons évidemment sur l'attaque de la chapelle Saint-Erdre sur Erdre hier, avec des forces de l'ordre à nouveau ciblées par un acte d'ultra-violence. Tout cela au lendemain du Beauvau de la sécurité, au cours duquel Éric Dupond-Moretti a fait face au syndicat de policiers. Nous parlerons politique également avec les élections régionales et le Rassemblement national en embuscade. L'interview d'Emmanuel Macron à Zadig, qu'est-ce qu'elle raconte de sa France à lui, au président? Et puis bien sûr le Rwanda, la France responsable mais pas complice du génocide des Tutsis. Là aussi, on a hâte d'entendre les explications et la discussion des grandes voix.
Bonne émission, Lionel.